appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André du mouvement Yokata Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Comment faire du portefeuille de l'État l'épine dorsale de l'économie congolaise? C'était le thème au cours du briefing de presse de lundi dernier, co-animé par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille. Selon ce dernier, la quasi-totalité des entreprises publiques présente à ces jours un visage de parents pauvres, la majorité d'entre elles dans des résultats négatifs. Cette contre-performance, d'après le ministre du portefeuille, nécessite des réformes urgentes pour faire d'elle le pilier de l'économie nationale. Et pourtant, il a été créé au sein du ministère du portefeuille le comité de pilotage de la réforme des entreprises de l'État coopérant possible qui avait initié, après sa création en 2004, des réformes pour la restructuration de certaines entreprises de l'État. Et d'aucuns estiment que si à ces jours ces entreprises sont des canards boiteux, c'est à cause du mauvais choix de leurs animateurs. Comment commentez-vous cette actualité? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse paradiocapi.net pour réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en composant les 09 716 80 79. Jean-Noël Mokonde à la mise en onde de ce magazine. Je lui fais à Bongonda sur la réalisation, la coordination micro. C'est Marcel Gomombal à toutes et à tous et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable dans ces pays n'existe pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens, Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui du briefing de presse de ce lundi, co-animé par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, et Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille. Et sous le thème « Comment faire du portefeuille de l'État l'épine dorsale de l'économie congolaise ?» Selon le ministre du portefeuille, la quasi-totalité des entreprises publiques présente à ces jours un visage des parents pauvres, la majorité d'entre elles dont des résultats négatifs. Cette contre-performance, d'après lui, nécessite des réformes urgentes pour faire d'elle le pilier de l'économie nationale. Et pourtant, il a été créé au sein du ministère du portefeuille le comité de pilotage de la réforme des entreprises de l'État, copyright en sigle, qui avait initié après sa création en 2004 de réformes pour la restructuration de certaines entreprises de l'État. Et d'aucuns estiment que si à ces jours, ces entreprises sont des canards boiteux, c'est à cause du mauvais état de leurs animateurs. Vous avez été nombreux à réagir sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Nous rappelons le numéro d'appel. Si vous voulez intervenir en direct, c'est le 09 706 80 79. En attendant d'avoir notre invité, si tout va bien, on aura en ligne le professeur Godin Poy, qui est enseignant en économie, mais aussi Lems Kamwanya, qui est analyste économique. Mais en attendant, je m'en vais lire quelques réactions sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. Il y a cette réaction de Lonia, qui est journaliste ici à Kinshasa. Il nous écrit ceci. Il se pose un problème colossal au niveau des entreprises ou établissements publics de la RDC. Ces défauts résident au niveau du manque d'une bonne politique managériale et un manque de leadership. Plusieurs entreprises du portefeuille de l'État éprouvent des difficultés, non pour pratiquer bon leadership économique. Beaucoup de dirigeants ne s'inspirent qu'aux réalités personnelles ou individuelles et bafouent l'aspect collectif qui est la bonne gouvernance. Quels que soient les modèles économiques qui seront évoqués par les théoriciens congolais, Et si l'on manque de leadership économique, tout sera tombé par terre. En outre, l'absence de la politique managériale contribue de manière négative au développement, contribue de manière négative pour ces entreprises du portefeuille de l'État. En effet, cette mauvaise pratique de cette politique repose sur la mauvaise représentativité de la culture d'entreprise, absence des valeurs, mythes, symboles, rites, héros et réseaux culturels. Encore leur défi de la croissance économique repose au niveau de la responsabilité sociale sur les plans économiques, humains et éthiques. Voilà. Ça, c'est la réaction de l'ONIA depuis Kinshasa. Une autre réaction que je m'en vais lire, c'est celle de Norbert Kabwanga qui nous écrit depuis Kananga. Il dit, dans notre pays, les entreprises de l'État, les entreprises et sociétés étatiques ont déjà une tournure des boutiques privées parce qu'elles sont des cadeaux que les autorités se sont offerts par connaissance de liens amicaux et familiaux et qui échappent au contrôle parlementaire parce qu'intouchables. Les mandataires sont les facteurs qui favorisent des détournements dus à la monogestion. Voilà, ça c'est la réaction de Norbert Kabwanga, une autre réaction. Je pourrais peut-être lire la suite un peu plus tard. Il est temps pour nous d'ouvrir déjà le standard pour accueillir les auditeurs qui aimeraient bien intervenir. Nous avons déjà en ligne Glody Bwanganga, qui nous appelle depuis Kinshasa, mais aussi notre invité, Lemka Moanya, est déjà en ligne. Avant d'accorder la parole à Glody Bwanganga qui nous appelle de Kinshasa, on va prendre notre invité, Lemka Moanya. Lemka Moanya, bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes analyste économique. Avec vous, on va essayer d'échanger avec les auditeurs et de comprendre mieux, en tout cas, ce thème qui a été au cœur du briefing de presse de lundi dernier, co-animé par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, et Jean-Lucien Boussa. Selon ce dernier, la quasi-totalité des entreprises publiques présente à ce jour un visage de parents pauvres. La majorité d'entre elles donnent des résultats négatifs. Cette contre-performance, d'après le ministre du portefeuille, nécessite de réformes urgentes pour faire d'elles les piliers de l'économie nationale. Alors, pourtant, on se souviendra qu'autour des années 2000, entre 2002 et 2004, il a été mis en place le comité de pilotage de la réforme des entreprises de l'État et qui avait initié, après sa création, des réformes pour la restructuration de certaines entreprises de l'État. Mais apparemment, tout cela n'a pas marché et aujourd'hui, on parle encore de réformes. Alors, que vous inspire cette annonce du ministre de portefeuille de voir comment, dans les jours à venir, amener d'autres réformes pour rendre les entreprises publiques de l'État performantes?
Oui, merci pour la question. Je pense qu'on vous l'avait indiqué, on avait créé les COPIREP dans les années 2002-2003, et les COPIREP, il est opérationnel depuis 2004. En son temps, les COPIREP étaient un organe technique du gouvernement en charge de la réforme des entreprises publiques, et les COPIREP devraient aussi mener des réformes sectorielles. Vous vous rappellerez qu'en son temps, la plupart des secteurs d'activité, les plus importants secteurs, c'était des secteurs qui étaient encore sous monopole de l'État. Je prendrai les secteurs de télécommunications, je prendrai les secteurs de l'énergie, je prendrai beaucoup d'autres secteurs, même les secteurs miniers avec les codes miniers. Je crois qu'on a essayé de libéraliser ces secteurs-là pour que l'État ne soit pas le seul acteur qu'on autorise aussi, qu'on permette aussi que les privés puissent rentrer. Ça, c'était un volet de la réforme qui a été menée par les COPIREP. Et ce volet a abouti à la production de ce qu'on avait appelé les documents de politique sectorielle, qui sont aussi suivis par la plupart de ces ministères. L'autre volet de la mission des COPIREP, c'était effectivement la réforme des entreprises publiques. Alors là, je crois qu'il y a des choses qu'il faut clarifier. Les COPIREP, c'était un organe technique du gouvernement. Comment les COPIREP avaient procédé? Les COPIREP a procédé par des diagnostics, c'est fait comme aujourd'hui le ministre l'a fait aussi. Après le diagnostic, les COPIREP a proposé les stratégies de réforme des entreprises. Et ces stratégies étaient déposées sur la table du gouvernement congolais pour que les gouvernements prennent des décisions. Parce que les COPIREP ne pouvaient pas prendre des décisions. Ils n'étaient qu'un conseiller technique du gouvernement en matière de réforme des entreprises publiques. Mais il faut reconnaître qu'en son temps, lorsqu'on avait mené tous ces diagnostics et proposé ces stratégies de réforme, il y avait pratiquement trois lots de problèmes qu'on avait identifiés. Le premier problème, c'était que la plupart de ces entreprises connaissaient, avaient un retard dans l'investissement de leur outil de production. L'État n'avait pas, avait cessé d'investir et que l'outil de production était devenu désuet. Et ces entreprises n'étaient plus en mesure de répondre à leur objet social. Donc là, il se posait un problème de renouveler l'outil de production et permettre aux entreprises de commencer à rendre les services pour lesquels on attendait d'elles. Le deuxième problème, c'était une pléthore du personnel. On avait constaté que la plupart de ces entreprises avaient un effectif du personnel qui était largement élevé et qui était même inadéquat par rapport à l'objet de la société. On a trouvé beaucoup d'administratifs que de personnel technique. Ça commençait à constituer un poids qui pesait sur la performance de ces entreprises. Et le troisième problème qui avait été identifié, c'est que on avait mélangé sous la casquette des entreprises publiques aussi bien celles qui étaient considérées comme le prolongement de l'État qui assurait une mission de service public. C'est ainsi que les copréaux avaient procédé au reclassement de ces entreprises pour voir d'un côté celles qui étaient considérées comme commerciales et celles qui étaient considérées comme prolongement de l'État qu'on a remis dans les ministères concernés. Et ce travail de reclassement a abouti à avoir aujourd'hui les 27 entreprises qu'on considère comme commerciales et qui ont fait l'objet de l'intervention du ministre et qui sont aujourd'hui sous la dépendance du ministère du portefeuille. Ces entreprises sont considérées comme commerciales, mais dans ces lots, il faut les regrouper en deux catégories. Il y en a qui, dans ces entreprises-là citées par les ministres, celles qui ont pour objectif non pas seulement de rapporter de l'argent à l'État, mais de faciliter le développement de l'économie. C'est ça leur objet social. J'ai citerai le cas de la SNCC, qu'on a toujours considéré comme l'épine dorsale de notre économie. J'ai citerai le cas de l'ONATRA, qui sont les entreprises qui doivent assurer la mobilité des marchandises, des personnes, pour faciliter le développement de l'économie. Donc, pour ces entreprises, leur performance n'est pas en termes d'avoir un résultat positif, c'est en termes de mettre en place des infrastructures qui permettent le développement de notre économie. Même si elles sont commerciales, ces entreprises peuvent continuer à recevoir des subsides ou des budgets d'investissement de la part de l'État pour que l'État soit en mesure de se rendre compte que ces entreprises vont assurer leur objet social. Mais l'autre lot, c'est les entreprises qui ont été créées pour générer suffisamment de ressources et contribuer au budget de l'État. Là, je citerai la GECAMIM, je citerai la MIBA. Leur objectif, c'est générer plus de moyens et renforcer le budget de l'État congolais. Maintenant, lorsque les coopératives ont proposé cette stratégie au niveau de l'État, il s'est fait que le gouvernement n'avait pas pris les décisions conformément aux recommandations et aux stratégies proposées par les coopératives. Par exemple, je prends un cas, on avait demandé à l'État, en son temps, compte tenu de la faiblesse des moyens financiers de l'État, nous pouvons le constater par la hauteur du budget de l'État, on s'était dit, vous pouvez ouvrir le capital de ces entreprises, permettre que les privés entrent dans les capitales sociales de ces entreprises. Comme ça, on amène des capitaux frais pour financer de nouveaux investissements et permettre aux entreprises de pouvoir évoluer. Et je crois que cette stratégie s'est heurtée à des difficultés, sauf quelques cas qu'on a pu constater, par exemple, le cas de l'hôtel Caravia qui avait bénéficié de ce qu'on appelle le financement innovant, les BOT. Mais dans la plupart des cas, l'État qui pensait mettre les moyens, l'État n'a jamais mis des moyens. Une autre stratégie qui avait été proposée au gouvernement, c'est de recourir à ce qu'on appelle le financement innovant, c'est-à-dire chercher des privés qui vont mettre les moyens, qui vont exploiter, et après 10-15 ans, retourner la propriété de l'entreprise au niveau de l'État. Mais là aussi, le gouvernement n'a pas pu évoluer avec ces cas. Je vous donne ici le seul cas que moi je connais personnellement, le cas de l'hôtel Caravia, qui si aujourd'hui il est dans cet état parce que le gouvernement avait accepté que des privés rentrent, investissent et ils sont partis. Et aujourd'hui vous avez un hôtel, le meilleur hôtel qui fonctionne au niveau de la ville de Lubumbashi. Nous avions aussi proposé en son temps que l'État, qu'on regarde dans quelle mesure on peut diminuer les effectifs dans les entreprises publiques pour les rendre compatibles à leur objet social et à leur revenu. Alors là, ça s'est buté notamment au niveau des syndicats, il y avait la donne électorale, ça devrait constituer une grogne sociale. Et là aussi, on n'a pas pu avancer. Donc, somme toute, comme vous le constatez, l'Écopéreb avait fait son travail, avait fait les diagnostics des entreprises, avait recommandé des stratégies au gouvernement, mais le problème s'est posé, c'est que le gouvernement n'a pas pu, en son temps, lever des options pour aller dans le sens de ce qui avait été proposé par les copyrights.
Alors, il faudra-t-il parler...
La réforme avait échoué.
Voilà, il faudra-t-il parler de manque de volonté politique à l'époque ou quoi? Parce que là, maintenant, on parle encore, vous avez, le ministre du portefeuille parle encore d'initier des réformes, alors que vous avez bien expliqué là, des réformes qui ont été initiées, même des recommandations qui ont été faites, mais malheureusement, tout cela n'a pas été respecté. On peut dire que si aujourd'hui, ces entreprises, comme on le dit, sont des canards boiteux, ils sont... ces entreprises ne sont pas performantes, c'est simplement, on peut se dire aujourd'hui, parce qu'on a fait fi de tout ce qui a été proposé comme réforme par les copyrep, alors que les copyrep avaient bien joué sa mission. Et qu'est-ce qu'il faut rapidement faire aujourd'hui? Répondre les mêmes réformes ou bien essayer encore de les approfondir?
Bon, je crois que la plupart des gens ont aujourd'hui que dans ces pays, ce ne sont pas des études qui manquent. Les recommandations sont là. Même si le ministre actuel, il fait les diagnostics de ces entreprises, il va voir qu'à la cause, à la base de leur contre-performance, il va rentrer sur les trois foyers de problèmes que je viens d'identifier. La faiblesse des investissements, pléthore du personnel et le manque de moyens financiers pour remettre ces entreprises-là sur les rails et les rendre performantes. Les recommandations sont là. Nous avons aujourd'hui les budgets de l'État. Regardez, nous avons la grève des enseignants. L'État ne sait même pas augmenter les salaires pour financer un secteur aussi vital que l'enseignement. C'est parce que les budgets posent des problèmes. Pourquoi ne pas ouvrir aujourd'hui les capitaux des entreprises aux capitaux privés? Pourquoi ne pas recourir au financement innovant pour permettre aux entreprises d'être performantes? On n'a pas besoin d'études, on n'a pas besoin de réformes. Les conclusions, les clichés, là, c'est les mêmes clichés aujourd'hui. Peut-être on peut se dire, on l'a juste actualisé, mais les mots et les problèmes demeurent les mêmes. Vous parlez de volonté politique, je suis d'accord, peut-être... En son temps, il y avait plusieurs autres paramètres, peut-être plusieurs autres présenteurs, mais aujourd'hui, il faut qu'on aille de l'avant. Sinon, on va revenir avec la même rhétorique. On va dire, il y a ces problèmes. On va peut-être considérer que voilà, on a fait des études, on a fait des forums, on a fait des états généraux, mais le plus grand problème, c'est passer à l'acte, voilà, mettre en œuvre ces recommandations. Ça demande des décisions courageuses au niveau du gouvernement.
Voilà, l'EMS, reviens-vous, on vous garde en ligne parce que les auditeurs s'impatientent déjà, ils aimeraient intervenir. Nous avons déjà Glody Bwanganga qui nous appelle depuis Kinshasa, Jérémy Mamba qui est à Lubumbashi. On y va directement avec Glody Bwanganga qui est à Kinshasa. Glody, vous avez la parole.
Merci beaucoup pour la parole accordée. Moi, je pense que quand on parle des portefeuilles de l'État, le portefeuille de l'État est composé des sociétés de l'État, sociétés à participation financière publique. Selon la loi numéro 2020/626 du 14 août 2020, une société anonyme est une personnalité de l'État dont le capital est entièrement détenu par l'État. Mais quand vous suivez ce qui se passe au pays, parfois on commence à se poser des questions, mais finalement, on est où? Qu'est-ce qui se passe exactement? Qui est censé de mettre l'ordre dans ces secteurs? Parce que vous allez comprendre, quand vous prenez le temps d'analyser les différentes entreprises qui se trouvent en République démocratique du Congo, que ce soit des expatriés qui viennent travailler ici, des sociétés privées, tout comme de l'État, le portefeuille n'est pas bien défini, le portefeuille n'est pas clair. Mais parfois, on n'arrive plus à comprendre. Qui est censé de faire ces manœuvres-là pour comprendre, voilà, si et seulement si vous œuvrez en République démocratique du Congo et que votre portefeuille n'est pas bien défini, automatiquement, vous devez embarquer vos histoires et puis rentrer à votre pays d'origine. C'est le ministère des portefeuilles, parce que moi, je ne sais pas si vous pouvez m'éclaircir, si l'invité peut m'éclaircir, à bien savoir, de les comprendre. Qui est censé faire ces suivis-là? Parce qu'on n'arrive plus à comprendre. Vous allez voir des sociétés qui viennent travailler ici au pays. Parfois, les personnels ne sont pas bien entretenus, ne sont pas bien soignés. Récemment, les cas qui s'est produit ici à Limité, jusqu'à preuve du contraire, nos frères manquent même l'argent.
Mais Glody, nous parlons plus aujourd'hui des entreprises publiques, des entreprises du portefeuille de l'État. Qu'est-ce que vous avez comme commentaire à faire là-dessus? Parce que on estime qu'à ces jours, ce sont des canards boiteux, toutes ces entreprises. Qu'est-ce que vous avez dit justement par rapport aux entreprises publiques de l'État? Rapidement.
Effectivement, vous avez totalement raison de ce que vous êtes en train de parler. Mais quand on parle des entreprises de l'État, nous devons aussi tenir compte des entreprises privées parce que les Congolais travaillent sur des entreprises privées. Mais, comme les sujets du jour nous orientent vers les entreprises publiques, oui, là, vous avez totalement raison. Mais, parfois, quand vous observez nos frères qui travaillent des entreprises publiques,
Enfin, il me semble que Glody n'est plus en ligne. On va aller cette fois-ci à Lubumbashi et retrouver Jérémy Mamba. Jérémy Mamba, vous êtes à Lubumbashi, vous avez la parole.
Bonjour, monsieur Marcel. Bonjour également à l'invité. Je pense que le sujet, il est pertinent parce qu'il touche directement à l'économie de notre pays, parce que il y va, parce que lorsque l'économie de notre pays tourne à plein régime, c'est la métamorphose de tout le pays et toute la nation congolaise. Et moi, je me dis, peu importe les réformes qu'on peut initier, que ce soit par le ministère de tutelle ou encore moins d'autres organes compétents, moi, je me dis que le problème demeure à quel niveau. Il faut peut-être commencer d'abord par fermer tout ce qu'il y a comme robinet de détournement. Et il faut passer par la dépolitisation du portefeuille de l'État à travers ces entreprises. Parce que comment voulez-vous, à ce stade, pour être directeur d'une entreprise quelconque, X ou Y, il faut appartenir à un parti politique. Nous avons besoin des technocrates, s'il vous plaît, pour bousculer les entreprises à aller de l'avant. Mais quand on place des gens qui ne sont pas compétents, les gens qui ne sont pas vraiment technocrates, c'est ce qu'on arrive aussi à verser dans tout ce que nous avons. Aujourd'hui, parce que quand vous êtes là par les simples partages, par les systèmes du partage des gâteaux, c'est que quand vous arrivez là-bas, vous devez, n'est-ce pas, répondre directement à celui qui vous a mandaté. Et comme conséquence, c'est quoi? Voilà, on assiste à détourner, donc c'est-à-dire à un détournement à grande échelle. De deux, il y a les exonérations qui sont peut-être octroyées aux hommes forts, gracieux et jouisseurs de l'État. Et voilà que notre pays s'engouffre. Et toutes les entreprises qui pouvaient contribuer au développement, au poumon même de notre pays, sont en train vraiment d'être asphyxiées et rien ne marche. Aujourd'hui, nous avons des gens fictifs qui sont là-bas. Les gens qui dirigent et les ceux qui travaillent là-bas, ce ne sont que des cousins, ce sont que des oncles, etc. Comment voulez-vous que l'État se retrouve? L'État ne va pas se retrouver sur toutes les lignes parce que déjà au départ, tout est politisé et tout est familiarisé. Et là, rien ne peut marcher dans ce pays. Et même ces entreprises pouvaient booster vraiment à grande échelle pour ce qui concerne le budget de notre pays. Mais malheureusement, aujourd'hui, notre budget est en dents de scie et par rapport à ce que les entreprises, on pouvait voir aujourd'hui, à partir de ça, nous avons des grandes entreprises. Aujourd'hui, rien ne marche tout simplement parce que tout est politisé. Et aujourd'hui, nous, les gens travaillent sur base des mots d'ordre. Et comment voulez-vous que les choses marchent aujourd'hui? Voilà. Si ce ne sont que peut-être donc c'est-à-dire, on rend compte à celui qui vous a mandaté et dans l'entretemps, c'est tout un pays qui est vraiment, qui descend aux enfers et on ne peut rien espérer. Peu importe, il faut nécessairement en interpeller les législateurs congolais pour redéfinir les choses clairement. On doit avoir des gens attitrés et non les gens sur les clivages, n'est-ce pas, politiques, etc. Nous voulons voir réellement des technocrates à la tête des entreprises et nous allons voir que les entreprises peuvent, n'est-ce pas, aller de l'avant et on va combattre ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Et le pays peut, à partir des entreprises, métamorphoser ce pays parce que chaque entreprise sera sommée à faire telle activité, telle œuvre au bénéfice de l'État et nous pouvons vraiment tout, nous pouvons aller de l'avant à partir de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais nous sommes en train de nous asphyxier nous-mêmes parce qu'il n'y a pas de politisation dans les entreprises et parce qu'il y a des détournements à grande échelle.
Merci beaucoup Jérémy Mamba, vous insistez, la solution passe par la dépolitisation de ces entreprises pour vous. Souvent, ces responsables sont nommés sur base du clientélisme, du militantisme, du tribalisme, et c'est des choses qu'il faut éviter. Merci Jérémy Mamba, depuis Lubumbashi. On sort de nos frontières pour aller à Vienne en Autriche, retrouver Franck. Franck, vous avez la parole.
Bonjour à vous tous au studio, bonjour à tous les amis qui se sont déjà exprimés.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Je ne suis pas personnellement expert du domaine économique, mais l'économie, ça nous intéresse tous comme citoyens, parce que sans l'économie, rien ne peut marcher dans un État. Puis, par rapport à la qualité du débat, depuis que je suis en train de vous suivre, personnellement, je suis en train de me demander la vision que nos citoyens congolais avons sur le développement. Quelque part, à suivre les interventions des uns et des autres, je suis partagé pour Mais si tu es, si nous avons une vision du développement communautaire, de développement qui doit profiter à tout le monde, ou si c'est peut-être pas la vision du développement individuel, personnel au niveau des familles. Parce que dans la plupart des cas, l'invité venait d'évoquer les cas des copyrep. On était encore tout jeune étudiant quand on suivait cet état de réforme. On a essayé d'initier des réformes. Mais autant d'années après, il y a lieu de nous demander qu'est-ce que toutes ces réformes-là ont apporté. Le plus grand danger avec notre manière de faire de la politique, c'est que chacun qui arrive peut avoir de très bonnes intentions.
Franck, oui. Franck, s'il vous plaît, vous avez suivi. L'invité a bien expliqué qu'au niveau du copyright, il y a des réformes qui ont été initiées, malheureusement, qui n'ont jamais été appliquées. Et c'est pas étonnant pour l'invité Lems Camoyan, qui est analyste économique, de voir aujourd'hui, de faire ces constats-là par rapport à toutes ces entreprises, parce qu'il fallait d'abord commencer par essayer de mettre en pratique toutes ces réformes, et puis on allait voir le résultat sur le terrain. Mais malheureusement, ces réformes n'ont pas été appliquées. Il a évoqué, par exemple, l'alphabet des investissements. Il avait également pléthore du personnel et tout ça. En principe, il fallait essayer de revoir tout cela, mais ça n'a pas été fait.
Justement, c'est pas pour m'éloigner de ce qu'il a dit, mais c'est encore pour les rejoindre, mais en m'explicitant avec d'autres mots. C'est comme ça que je dis, je me demande si nous avons la vision du développement qui profiterait à tout le monde comme État, ou nous avons seulement une vision du développement qui profiterait à des individus. C'est comme ça que chaque ministre qui arrive parvient à faire quelque chose comme diagnostic, mais à la fin des comptes, si vous analysez, vous vous rendez compte que il l'a fait peut-être pour se retrouver quelque part. Et c'est peut-être là le plus grand problème. Le compatriote Jérémy Mwamba venait de parler de la dépolitisation, ça c'est un aspect, mais je crois qu'à travers tout ce que nous voulons atteindre comme État, développer comme structure, tout ça, ça, c'est aussi lié à la mentalité, à l'esprit. Tant que nous allons continuer à nous battre au nom de l'État, mais pour nous positionner pour nous-mêmes, ça n'ira pas, parce que dans la plupart des cas, tel arrive, il va initier, il va passer sur vos ondes, donner des arguments, donner des avis, mais au demeurant, on se rend compte que la plupart de nos dirigeants ne travaillent pas pour l'État congolais, ils travaillent pour eux-mêmes. Et c'est là le plus grand problème. Il y a la dépolitisation, il y a la politisation de tout, il y a aussi l'égoïsme et la mentalité. Donc les gens pensent que si moi je me sers au nom de l'État, au nom de la structure étatique, au nom de l'entreprise, je fais voyager mes amis, je fais voyager mes enfants, je place mes amis, c'est ça le développement. Les gens peuvent penser que quand ma famille est à l'abri de la misère, c'est ça le développement. Et c'est là le plus grand danger. Donc on cherche à positionner des individus. Les individus se battent pour se retrouver, mais dans l'entretemps, c'est l'État. Et dans un pays qui a maintenant plus de 100 millions d'habitants, si deux individus au niveau de leur famille pensent se développer au détriment des autres, mais ça, c'est encore rien. Donc, on va tous se retrouver dans les mêmes gouffres et c'est comme ça qu'il faut se battre pour arriver à comprendre que tout ne peut pas marcher sur base de la politisation aveugle. Et il faut aussi que les citoyens comprennent que le développement, c'est un dynamisme, c'est une synergie, donc on doit se développer ensemble. Pendant que je me bats pour que moi, comme individu, je me développe au niveau de ma famille, au niveau de mes ambitions, je dois aussi créer un cadre du travail dans lequel je vais gagner les nécessaires et les autres. Mais si moi, je cherche à tout avoir au détriment des autres, je suis ADG, je me crée des opportunités pour me créer, pour avoir des millions, mais ceux qui travaillent avec moi au niveau du cabinet n'ont rien. Je suis ministre, j'arrive, je parle, réforme, ceci. Bon, on obtient des financements de la Banque mondiale. Après, je prends cet argent, je l'empoche dans mes comptes, je pars. Celui qui vient après, il initie. Mais le gouvernement reste statique au niveau des élans du développement, mais les individus s'enrichissent. Et c'est comme ça que moi, je ramène parfois tous les problèmes que nous avons au niveau de la mentalité et ce sont des problèmes d'éducation des valeurs. Nous avons quelle vision du développement et nous avons quel sens du patriotisme pour viser un développement communautaire chez nous.
Voilà, merci beaucoup Franck. Depuis Vienne, avant de retrouver notre auditeur, mon fessine Georges Kilangalanga est en ligne depuis Kisangani. Georges Kilangalanga, vous avez la parole.
Oui. Bonjour, monsieur Marcel. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Je pense que le constat qu'a fait le ministre est un constat que moi personnellement je partage ensemble avec tous les compatriotes. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter seulement en faire des constats ou il faut passer à...
Il y a quelques soucis avec la ligne de Georges Kilangalanga qui nous appelle depuis, qui nous appelait depuis à Kisangani. Alors je m'en vais lire sur la page Facebook cette réaction de donc fait signe que Maître Omar. C'est bon, Maître Omar est en ligne depuis à Kinshasa. Maître Omar, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Monsieur Marcel Dufour, Bertrand Madjudje. Les économistes l'ont toujours dit, lorsque l'État intervient dans les secteurs économiques, il intervient soit comme régulateur, soit comme entrepreneur. Comme régulateur, il met en place des principes, des règles pour réguler l'économie. Comme entrepreneur, il crée des sociétés pour accroître les richesses de l'État. C'est là la notion de l'entreprise publique. Aujourd'hui, une entreprise publique, contrairement à ce qu'un des prédécesseurs a dit, est une société commerciale appartenant à l'État, dans laquelle l'État a soit la totalité des parts, soit une part. Voilà pourquoi on parle d'entreprise publique et d'entreprise d'économie mixte. On a eu une réforme importante en 2008, parce qu'on s'est rendu compte que la loi de 78 était inadaptée aux réalités sociales. En plus, les entreprises de l'État n'étaient plus compétitives. Parmi les recommandations fortes du COPIREP était la mise en place. 4 lois ont été votées en 2008. Le 24 février 2009, à l'époque, Mouzito, qui était Premier ministre, a pris des décrets pour compléter ces lois. Ces lois étaient meilleures, elles ont tout prévu en matière de gestion, de contrôle. Mais c'est un problème d'adéquation légale sur terrain. Je suis contre l'invité pour dire qu'il faut de nouvelles mesures. Non, tout a été pris. Il y a 4 lois qui ont été votées en 2008, 5 décrets ont été pris en 2009, qui a tout prévu. Mais il y a un problème de non-respect. La première cause qui fait que ces entreprises ne soient pas compétitives, c'est d'abord les recrutements. La réforme de 2008 a innové avec les recrutements internes. Vous avez appris, je crois, récemment, il y avait un concours interne où il fallait sélectionner parmi les directeurs, les fils maison, pour sortir les DG. Ces dispositions n'ont jamais été respectées. Parce que les gens oublient. Depuis 2008, les entreprises publiques fonctionnent comme des sociétés commerciales privées. C'est-à-dire, elles doivent fonctionner comme Marsavco, comme Vodacom. Et vous êtes journaliste, vous le savez, une société commerciale a des principes. Il faut un job description, il faut un marketing, il faut une gestion, il faut un management. Et ils continuent à avoir des idées et des pratiques vieilles avec une nouvelle disposition. Ça, c'est la première cause. Au lieu de mettre des critères techniques et des recrutés au niveau interne, on impose des hommes politiques. Deuxième innovation de la réforme de 2008, c'était les contrôles techniques et les contrôles politiques. Il était prévu que le Parlement fasse des contrôles de manière régulière au niveau des entreprises publiques. Parce qu'on le veuille ou pas, ces entreprises collectent beaucoup d'argent et on ne sait pas où va cet argent. Prenez une entreprise comme l'ONATRA qui a 25 ans, c'est 25 mois impayés. Allez à la SNEL, allez à la SONAS, partout. Elles produisent l'argent de manière régulière, mais on se pose des questions. Les contrôles techniques qui doivent être faits par les parlements a toujours été défaillant. Il y a aussi les contrôles administratifs. Au dehors du parlement, les ministres des tutelles qui est les ministres du portefeuille a les devoirs d'assurer des contrôles de manière régulière et qui doivent aboutir soit à des encouragements, soit à des sanctions. Voilà, à mon avis, Monsieur Marcel, les deux causes principales. On récrite de manière complaisante et politique. On n'effectue pas un contrôle technique et administratif. Si on va avec ces deux piliers, je crois qu'on va effrayer. Il n'est pas
voilà,
question
merci.
De texte. Il n'est pas question de nouvelles réformes. Il est voilà. question d'application de ce qui existait déjà.
Voilà. Merci beaucoup, Maître Omar Kigalo. Alors, je retrouve Lems Kamonia, qui est analyste économique. On va conclure avec lui. Puis, on va retrouver un autre économiste, c'est le professeur Godempo. Il peut poursuivre cet entretien. Lems, vous avez suivi les intervenants. Vous avez suivi les avis des uns des autres par rapport à cette réforme qui devrait être initiée. En tout cas, sur le ministre du Portefeuille pour rendre les entreprises publiques de l'État, les entreprises de l'État performantes. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux réactions des uns des autres?
Oui, j'ai suivi avec intérêt les réactions des autres. Je pense qu'il est possible d'étager les mesures en ce qui concerne les redressements des entreprises publiques. Il y a les mesures qui se rapportent à la gestion et au management de ces entreprises et au cadre légal et juridique qui doit régir le fonctionnement de ces entreprises qui, aujourd'hui, je l'admets, doit être totalement dépolitisé. Parce qu'aujourd'hui, les mandataires publics, ils ne sont pas là pour travailler afin d'accomplir l'objet social. La plupart sont là pour rendre des comptes à leur maître, à ceux qui les ont placés à la tête de l'entreprise. Quel que soit ce qui se passe dans la gestion, le plus important, c'est de garantir que mes parapluies sont solides et que je ne vais pas bouger. Et c'est là que nous demandons au gouvernement qu'on évite cette question de dire, voilà, les entreprises publiques, les mandataires, on les partage en fonction de partis politiques. Chaque parti, moi j'aurai telle entreprise. C'est cette politisation qui a fait que, parfois, les partis politiques qui considèrent que ce sont eux qui doivent proposer les mandataires de telle société, ils ne cherchent pas des personnes compétentes, des technocrates qui sont dans leur parti, mais ils proposent n'importe qui, à tel enfin que ça devient un scandale quand on regarde aujourd'hui ceux-là qui animent la plupart de nos entreprises publiques. Je pense que ça, c'est une recommandation qui est très importante et qui ne demande pas beaucoup de choses, qui demande une volonté politique, qui demande la levée des options politiques pour dire qu'on laisse les entreprises entre les mains des technocrates. Ça, c'est dans un premier temps.
Oui. Mais après, rapidement, ça, oui.
Après avoir assaini la gestion, il faut maintenant aller aux problèmes en profondeur qui sont au sein de ces entreprises, comme je les ai évoqués, je ne peux plus y revenir. Donc ça, ça pourrait être comme une mesure qui est à la portée du ministre, qui est à la portée du gouvernement pour que les options soient levées, pour que qu'on évite de partager les entreprises publiques comme un gâteau. Et ça amène un peu à tous ces problèmes que nous décrions aujourd'hui.
Voilà, merci.
Là, j'ai pris totalement cette façon de voir les choses.
Voilà, merci beaucoup, Lems Kamonia, pour votre contribution à ce magazine. De ce jour, on parle de cette annonce du ministre du Portefeuille d'initier des réformes pour rendre les entreprises publiques de l'État performantes. Merci, Lems Kamonia. Je rappelle que vous êtes analyste économique. Vous intervenez depuis le Lubumbashi. Bonne journée à vous. Voilà, on va poursuivre avec, on aura tout à l'heure le second invité pour ce sujet, Godin Poyi, qui est professeur en économie. On me fait signe qu'il est déjà en ligne. Godin Poyi, vous êtes déjà en ligne?
Oui, je suis déjà en ligne, Marcel.
Voilà, merci de nous rejoindre. Okay. Vous êtes professeur en économie. On va vraiment y aller rapidement avec vous parce qu'on n'a plus assez de temps. On parle justement de ces briefings de presse qui a été tenu lundi dernier, co-animé par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, et Jean-Lucien Boussa, ministre du Portefeuille. Alors, selon ces derniers, la quasi-totalité des entreprises publiques présentent à ces jours un visage de parents pauvres. Et cette contre-performance, d'après lui, nécessite de réformes urgentes pour faire d'elle le pilier de l'économie nationale. Alors qu'on se souviendra, au tour des années 2000, il y avait la création du comité des pilotages de la réforme des entreprises de l'État, coopéré comme sigle, et qui avait initié des réformes pour la restructuration de ces entreprises de l'État. On a évoqué ces certaines réformes qui ont été soumises au gouvernement par Lems Kamonia, analyste économique, et malheureusement ces réformes n'ont pas abouti. Et vous, déjà à cette époque, vous étiez un peu pas très très d'accord avec la mission confiée au COPIREC. Alors aujourd'hui, il faut initier d'autres réformes pour rendre les entreprises publiques performantes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci beaucoup, Marcel. En fait, les problèmes de la République démocratique du Congo, c'est que chez nous, la science ne nous dit rien. Et pourtant, c'est la science qui a permis à d'autres États d'aller de l'avant. Nous alertions déjà en 2008, lorsque les 7 juillet, les réformes sur les entreprises ont été concrétisées. On alertait déjà pour dire que les logiciels proposés par la Banque mondiale ne cadrait pas avec la réalité. Et notre point de vue sortait bouté sur la théorie de la contingence. Je suis à la fois erré et malheuré de constater que finalement le gouvernement s'est ressaisi. Et malheuré tout simplement parce que c'est du temps perdu. En fait, ce qu'il faut faire maintenant ne va plus encore de faire d'autres réformes, sinon ça sera un désordre. Ce qu'il faut faire et ce qui manque, c'est la méritocratie. Les copinages d'État, c'est les grands ennemis de la République. Donc, aujourd'hui, s'il faut sauver les meubles, il faut impérativement trouver des bonnes personnes pour ces entreprises, parce qu'à chaque métier correspond un pays. Tenez, les entreprises portées avant cette réforme de 2008 au budget de l'État, donc leur contribution était autour de 8%. Et après les dites réformes, aujourd'hui, elles n'apportent que moins de 5% au budget de l'État. Et lorsque nous parlons de la méritocratie ici, on ne doit pas se limiter seulement au niveau de la formation. Parce que le problème de capital humain a été déjà réglé par Gary Becker, ce prix Nobel de l'économie américain. Il dit qu'un capital humain, c'est celui qui a fait des études exigeantes, qui est en bonne santé, mais qui a suffisamment d'éthique. Vous allez voir que chez nous, ce sont ceux qui volent, qui sont toujours reconduits au grand poste, et d'une manière telle que le pays est en train vraiment de disparaître sans que nous n'en rendions compte. S'il faut qu'on puisse encore revitaliser ce secteur, on doit appliquer la théorie du capital humain telle que développée par Gary Becker.
Mais professeur, vous avez suivi, je pense bien, Lems Kamoignan qui a dit qu'il y avait quand même des observations qui ont été faites à l'époque par les copyrights. Par exemple, il y avait une certaine faiblesse dans les investissements. Il fallait essayer de voir comment essayer de renforcer les investissements. Il y avait également pléthore du personnel. Et il y avait à l'époque des entreprises qui, selon Lems, qui sont des entreprises faites pour générer de l'argent, c'est-à-dire apporter un peu plus au budget de l'État. Mais il y avait d'autres entreprises pour lesquelles il fallait plus assurer la mobilité. Et tout ça n'a pas été observé, peut-être par un manque de volonté politique. Est-ce que vous pensez qu'à ces jours, on ne peut pas essayer d'approfondir ces réformes?
Mais on va faire des investissements avec quoi? Parce que l'État lui-même est en difficulté financière. Vous devez savoir, Marcel, que chaque organisation est par ricochet les entreprises a besoin de 3, de 4 ressources fondamentales. C'est les ressources matérielles, c'est les ressources financières, c'est le temps comme ressources, mais c'est aussi les ressources humaines. Et François Perrou disait que les ressources humaines étaient la ressource des ressources. C'est le vrai problème de la RDC, ce n'est pas tellement les investissements qu'on le pense, c'est d'abord les hommes que nous mettons à la tête de ces entreprises. C'est ça le vrai problème. Renseignez-vous, le Japon n'a pas de ressources naturelles. Mais le Japon prête l'argent aux Américains. Donc, l'outil de production actuel, il est encore possible, si on a vraiment de bonnes personnes au sommet de ces entreprises, il est encore possible de les rendre davantage viables.
Donc vous insistez...
Lorsque vous allez investir dans des entreprises qui sont dirigées par des prédateurs, des voleurs, mais vous êtes encore en train d'apporter de l'eau à l'air.
Donc vous insistez, professeur, oui. Il faut absolument de la méritocratie. On revient à vous, professeur, il y a un auditeur qui aimerait intervenir, c'est l'inspecteur Jacques Befonga, qui nous appelle depuis Kisangani. Inspecteur, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup pour la parole accordée, monsieur le journaliste.
Bah, allez-y, Jacques, on vous écoute.
Est-ce que vous m'entendez?
On vous entend très bien, allez-y, on vous attend. Même si vous êtes en endroit par moi, il y a beaucoup de bruit, mais allez-y, oui. On vous attend.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'aimerais dire ceci. L'actuel état des entreprises publiques congolaises est effectivement préoccupant. Et leur rentabilité, leur faible productivité a des percussions profondes sur l'économie nationale. Maintenant, la déclaration du ministre Jean-Michel Boussa, si la situation des parapauvres de ces entreprises met en évidence une réalité où ces entités, au lieu de contribuer effectivement à la croissance économique, sont souvent perçues comme des fardeaux pour l'État. Et en faisant une analyse ou en faisant un diagnostic de contre-performance, il y a lieu de relever que les entreprises publiques en RDC font face à plusieurs obstacles structurels et de gouvernance. Ces contre-performances sont en partie plutôt dues à un management inefficace, souvent caractérisé par des nominations basées sur des affinités politiques ou des critères autres que la compétence. Alors, ce mauvais choix des dirigeants affaiblit effectivement leur capacité de gestion, créant ainsi un cercle vicieux de pertes financières d'inefficacité et de manque d'innovation.
Voilà, inspecteur, on retient, inspecteur, s'il vous plaît, on retient également pour vous, il faut plus de critères comme la méritocratie, aussi longtemps qu'on va nommer des animateurs des entreprises de l'État sur base de relations familiales ou amicales ou sur base de militantisme ou de tribalisme, rien ne marchera. Merci, inspecteur Jacques Befonga, depuis Kisangani. On prend le tout dernier, c'est maître Yves Mouyaï qui nous appelle de Kinshasa. Maître, vous avez la parole.
Merci, merci Marcel. Merci. Bon, je salue le professeur Pasteur. Bon, je crois que le grand problème aujourd'hui, c'est que nous voulons bâtir un État sur les cendres de l'impunité. Et ça ne peut pas marcher. Vous savez, on a spolié le patrimoine de ces entreprises de la part des personnes mieux identifiées qui sont même dans le rouage politique là. Le ministre, lorsqu'il pose ce diagnostic, c'est comme s'il ne veut pas avancer. Parce que moi, je pense que il devrait, ensemble avec le ministre de la Justice, engager des actions judiciaires de courageuses pour qu'on puisse récupérer le patrimoine qui a été spolié de ces entreprises. Vous prenez, par exemple, le cas de la Gécamines. Vous savez que le terrain de la Gécamines, le matériel de la Gécamines, ont été spoliés par des politiciens. Et je crois que les enquêtes menées par l'IGF ont démontré noir sur blanc comment est-ce que l'entreprise a été spoliée. Mais aujourd'hui, lorsqu'il pose ce diagnostic, laissant de côté cet aspect des choses, moi je pense que ça va avancer. Donc il faut absolument que le patrimoine mobilier immobilier de cette entreprise qui a été spoliée par des politiciens soit récupéré afin de permettre à ces entreprises de relancer leur production. Je pense que c'est ça la clé de voûte. Si nous voulons maintenant faire des diagnostics pour dire écoutez, nous allons faire des réformes. Je ne pense pas que réforme sur réforme peut nous avancer parce qu'il y avait déjà des réformes en 2008.
Voilà.
On a estimé qu'il fallait que ça soit des sociétés jusqu'à ces jours-ci. Nous ne voyons pas ceux qui sont venus avec l'air pour que ce soit finalement une société. Donc, je peux, l'autre problème, c'est très important que la gestion de ces entreprises aujourd'hui est tributaire de la coalition en politique qui est en train de se faire dans notre pays. Lorsque j'ai voilà, envie aux élections, notamment lui, vous, c'est consort, s'il vous plaît, c'est très important, monsieur.
Rapidement,
monsieur
on a
Marcel,
pas ce temps. Allez-y rapidement.
Ils viennent absolument dans un esprit de coalition pour proposer ceux qui doivent diriger les entreprises. C'est dans cet esprit-là qu'on ne peut pas trouver, on ne peut pas réaliser que les entreprises puissent être dirigées avec la méritocratie parce que ce sont les politiciens.
Justement, maître Yves, vous revenez. On est bien d'accord, vous revenez sur ce que vous ont précédemment également dit. Donc, il faut absolument prendre comme critère principal la méritocratie. Voilà. Merci, maître Yves Mouyaya. On va conclure avec notre invité, professeur Godin Poyi. Vous avez suivi ces deux intervenants. Donc, la méritocratie doit rester en principe le critère clé les animateurs des entreprises de l'État et surtout, vous avez également insisté, il faut de la compétence et arrêter de nommer des animateurs, la tête des entreprises de l'État sur base ce que vous avez appelé un copinage ou d'autres critères qui n'ont rien à voir avec la méritocratie.
Ben, Marcel, je voulais d'abord remercier mon ami maître Yves et l'inspecteur qui est intervenu à partir de Kisangani pour les rigotes. Il y a des gens qui pensent que comme ils exercent le pouvoir maintenant, la République démocratique du Congo est devenue leur propriétaire privée. Ça, nous n'allons pas l'accepter. Je voulais d'abord faire une mise au point conceptuelle. Parce que lorsqu'on dit réforme,
oui.
les gens confondent la réforme et le colmatage conjoncturel. Les réformes sont déjà là. Maintenant, il faut trouver des animateurs de ces entreprises sur fond de la méritocratie. Il y a des gens qui sont venus pour s'enrichir pendant que la population souffre. Nous n'allons pas accepter ça. Ceux qui jouent avec l'argent de l'État, ils vont nous rencontrer sur leur chemin. Et les moments venus, nous allons alerter toute la population parce que la misère n'a fait que trop durer. Ces gens sont devenus des esprits de blocage pour notre pays. On ne va pas leur permettre de continuer à piller les entreprises de la République.
Donc, là, on revient, le plus important, c'est d'avoir des entreprises performantes et vous estimez que s'il faut initier des réformes, les réformes, elles sont déjà là, mais c'est plus, il faut des personnes qui méritent.
Voilà, c'est ça le problème et surtout ce que Maître Yves venait dire, les cultes de l'impunité. Vous avez vu comment moi j'ai fait bouger sur cette ville. Les gens sont allés en prison. On a pris de l'élan. Tous les politiciens se sont ligués contre moi. On ne peut pas laisser le pays comme ça. On va enlever. Comment on va évoluer? C'est quitte de l'impunité entretenue par beaucoup de gens. Si se partage les butins. Donc ça doit changer. Il ne faut pas qu'on puisse continuer à souffrir pendant que la République a suffisamment de ressources.
Voilà, il ne faut pas continuer qu'on souffre pendant que la République a des ressources, c'est avec ce mot du professeur Godet.
C'est une association de malfaiteurs, ils savent comment ils voilà, se protègent.
Merci beaucoup.
Et il faut y mettre fin.
Merci beaucoup, professeur Godet. Je rappelle que vous êtes professeur
en économie. Vous êtes fantaisiste, avec les audits fantaisistes qui encadrent et protègent les bolaires.
D'accord, on s'arrête là. Voilà. Merci, Godet, professeur en économie. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver très prochainement. Au revoir.
Merci beaucoup Marcel, merci Maître Yves et l'inspecteur ainsi que tous vos auditeurs. Merci.
Et voilà, fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de séjour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Jean-Noël Mokondo qui est à la mise en onde, à Julie Feza Bongonda qui l'a réalisé, coordonné au micro. C'était Marcel Gomobala. Au plaisir de vous retrouver très très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous. Et au revoir à toutes et à tous.